RMC, Brigitte Lahaye, l'amour et vous.
Eh bien, c'est reparti pour une heure d'amour, sous toutes ses formes, bien sûr. N'hésitez pas à m'appeler au 3216. On va commencer avec Irène Diamantis qui va nous décoder les dessous de l'actu. Irène, bonjour.
Bonjour, Brigitte. Je sais qu'elle est dure, celle que vous me proposez aujourd'hui.
Oui, mais je crois que c'est important. C'est important d'en parler parce qu'on entend, un peu tout et son contraire. Hein. On va parler de la burqa aujourd'hui.
C'est parti d'un maire qui a refusé de marier une femme qui était en burqa.
Voilà.
C'est de là que c'est parti et un dépôt de 58 députés qui souhaitent créer une commission pour l'instant de réflexion. Alors il est vrai que je crois que vous éprouvez le même sentiment, il y a la raison et le cœur quand on croise des femmes en burqa, c'est vrai qu'on a des sentiments très mélangés. Personnellement, ça me fait peur, j'ai envie d'aller au-devant d'elles pour leur demander pourquoi, comment. Alors jusque-là, on avait en France affaire, les femmes en burqa étaient des femmes qui étaient en voyage, qui venaient d'Iran, d'Afghanistan, d'Arabie Saoudite. Ce que redoutent, à juste titre, les députés français, c'est des femmes élevées sur le sol français qui se mettraient à porter la burqa. Mmh. Or, ce qui nous frappe quand même dans la burqa, c'est que c'est l'anonymat. S'il y a 100 êtres humains qui sont cachés comme ça, ce ne sont plus que des numéros. Et on sait bien que quand on est anonyme, on est sous le pouvoir de quelqu'un, on n'est plus un sujet. Mmh. Alors c'est vrai que c'est notre regard et notre œil d'occidental. Maintenant, on est obligé aussi de réfléchir en amont que fait l'éducation et la République, puisque dans nos pays, dans les pays saxons, on peut porter, chacun peut s'emparer des signes qu'il souhaite. Nous sommes quand même sur les lois laïques universelles de la République. Or, c'est vrai que dans la burqa, ce qui nous frappe, ce n'est pas seulement un signe extérieur de religion, c'est toujours que ces femmes forcément ne travaillent pas et sont sous l'aliénation de quelqu'un, même si elles se pensent consentantes.
Oui, et c'est ce « même si elles se pensent consentantes », moi, qui me donne envie de réagir. Parce que je crois que vous aussi, Irène Diamantis, on s'est battu pour que la femme acquiert une certaine liberté. Et je crois que ces femmes-là ne sont pas libres, même si elles croient l'être, mais elles sont sous le poids d'une culture. Voilà. Et je me permets une comparaison qui va peut-être choquer certains auditeurs, mais je rappelle que ce sont les mères, souvent, qui font exciser leurs filles au nom de la culture.
Absolument.
Et quelque part, c'est peut-être aussi les mères qui imposent à leurs filles, à leurs jeunes filles, de porter la burqa. Et c'est difficile de se libérer de sa mère.
C'est difficile, c'est-à-dire que le problème, la difficulté, c'est est-ce que l'interdit peut régler l'affaire ? Il est évident que spontanément, on sait bien que c'est par l'éducation. Par l'éducation, la culture, une autre éducation qu'on peut amener les gens à réfléchir sur leurs conditions.
Oui, je comprends bien ce que vous dites, mais peut-être que parfois, justement, de se révolter, ça permet...
Mais la révolte, on l'a tous. Hein.
Oui, je crois.
Je veux dire parce que il s'agit effectivement d'un habit d'aliénation qui rend l'être humain, qui interdit finalement tout lien public. Hein. Et on sait bien que si on contient la femme dans le privé, il n'y a plus le regard de l'État, de la société.
Tout
peut avoir lieu.
Et là, on est deux femmes qui parlent, mais je suis sûre que beaucoup d'hommes qui nous écoutent sont d'accord.
Absolument.
Avec nous. C'est pas une question de femmes.
C'est d'hommes. Important de le dire. Alors, c'est vrai que nous avons mis aussi du temps à acquérir notre liberté, ce trajet-là. Et en tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas les rejeter. Alors le problème, c'est est-ce que l'interdit, c'est vrai que ce n'est pas compatible avec les lois universelles françaises, mais je dirais pas au nom du religieux, au nom de l'anonymat dans le public.
C'est une belle façon de voir les choses, Irène Diamantis, comme toujours, vous nous apportez un éclairage nouveau. Voilà, et ben de toute façon, on n'est pas politique, donc et tant mieux parce que ça doit pas être simple à régler.
Voilà, oui, vraiment pas, et qu'il faut y aller sur des deux. En tout cas, en amont, c'est la qualité de l'éducation. Hein, qui fait que les femmes peuvent travailler, s'ouvrir et réfléchir.
Et une fois de plus, pour conclure, je dirais quelle chance on a d'être en France.
Tout à fait.
Dans un pays libre. Merci Irène.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Laurent, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Laurent, vous avez 38 ans.
Tout à fait.
Et vous avez un souci parce que vous avez été sur des chats et à cause de ça, votre femme veut vous quitter.
Ben, elle m'a quitté carrément.
Oui.
Elle m'a quitté, bon, j'étais sur des chats, bon, ben, entre nous, il y avait des petits problèmes, enfin, moi, elle a toujours jamais eu confiance en moi.
Mm-hmm.
Et parce que bon, on s'est connus sur Internet, et c'est vrai que quand j'étais célibataire avant de me mettre avec elle, j'allais voir à droite à gauche, quoi. J'avais pas mal de conquêtes, et puis le jour où je me suis mis avec elle, j'ai arrêté ce genre de choses parce que j'étais bien avec elle.
Et vous saviez qu'elle était particulièrement jalouse et qu'elle avait pas trop confiance en vous ?
Non, au départ, non. Avant qu'on se mette ensemble, non. Et puis au départ...
Non, mais quand vous avez été sur ce chat ou sur cette chat, est-ce que vous saviez que si elle le découvrait, elle risquait de partir ?
Partir, non, mais je savais qu'elle était un peu jalouse. Mais bon, je voulais juste discuter, je voulais rien faire d'autre.
Oui, mais vous savez, Laurent, ce qui est important, c'est toujours de se mettre face à ses responsabilités et de comprendre ses actes. Si vous saviez qu'elle était très jalouse et qu'elle ne prendrait pas ça... aussi bien que ça, il faut comprendre pourquoi ça a été plus fort que vous de continuer à aller sur cette chatte.
Parce que ça allait mal entre nous en ce moment-là.
Voilà, et bien c'est ce que je voulais vous faire dire. Donc vous voyez bien que votre couple, il n'allait pas bien. Et si aujourd'hui vous l'avez perdu, c'est peut-être pas tant à cause du chatte qu'à cause que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde.
C'est pas spécialement à cause de ça que je l'ai perdu, parce que j'allais sur des chats, puisqu'elle sait très bien que j'ai rien fait, j'ai réussi à lui faire comprendre que je ne voulais rien d'autre, qu'il y a quelques
années. Alors, c'est pas que vous n'avez rien fait non plus, hein, attention.
Ah non, ce que je veux dire, hormis de discuter, sinon je n'ai rien fait qui fasse...
Attendez. Bien sûr que vous n'avez rien fait de sexuellement consommé, hein, mais vous n'avez pas rien fait non plus. Enfin, je veux dire, vous avez quand même fait quelque chose. Et voyez, c'est pour ça que c'est important toujours de se rendre compte qu'on n'est pas, on dit pas toujours les choses comme il faudrait les dire. Parce que si vous avez défendu sans arrêt vis-à-vis de votre femme que vous n'avez rien fait, c'est normal qu'à un moment donné, elle soit partie. Parce que pour elle, vous avez fait quelque chose.
Ah, d'accord.
Vous voyez ? Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir la récupérer. Je ne sais pas si ça vaut la peine. D'ailleurs, peut-être que votre couple était consommé et qu'au fond, c'est très bien que ce soit fini. Mais il faut vraiment être clair. C'est ça qui va vous permettre, de toute façon, d'envisager l'avenir le mieux possible.
C'est qu'elle me reproche, finalement, elle n'arrive pas à me refaire confiance, mais c'est pas autant sur ce point-là qu'elle n'arrive pas à me faire confiance. C'est que bon.
Laurent, oui, en dehors de cette histoire, est-ce qu'au fond votre couple avait la possibilité de se retrouver et d'avoir encore une vie commune agréable ?
Oui. Oui.
Bon, ben c'est ça qu'il faut essayer de revendiquer auprès d'elle.
Comme je vous dis, il y a des petits points qui chez moi, pourquoi elle ne veut pas me faire confiance, c'est que bon, vous avez vu une émission la semaine dernière, elle a entendu comme quoi il y avait une personne qui était jalouse de ses enfants.
Oui.
Et elle a eu l'impression de retrouver la personne, que c'était elle qui parlait, que la personne était exactement c'était moi, quoi. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je me suis forgé un caractère. Je suis très solitaire, j'ai du mal à parler de mes problèmes.
Et alors, vous voyez, vous êtes très solitaire, mais vous allez parler à des personnes que vous ne connaissez pas.
Oui, parce que je ne les connais pas. Puis
Et voilà. Mais ça aussi, c'est important que vous compreniez. Vous avez du mal à parler à votre femme parce que vous avez du mal à vous montrer tel que vous êtes. Vous cachez, et des gens que vous ne connaissez absolument pas, vous osez vous confier.
Oui.
Alors peut-être.
Alors, c'est à elle que j'aurais dû me confier.
Exactement. Donc tout ça, tout ce qu'on vient de se dire là, essayez de bien l'analyser et retournez vers elle avec ce nouveau discours. Et peut-être que ça va changer quelque chose.
J'espère.
Et puis
que je veux changer, quoi.
Ce que je vous propose même, Laurent, c'est de ce soir ou avec le podcast, faites-le écouter à votre femme.
Oui.
Parce qu'au fond, malgré tout, vous l'aimez.
Ah oui, énormément.
Mais vous n'avez pas su communiquer, vous n'avez pas su lui dire, vous n'avez pas su lui montrer. Et puis elle manque un petit peu d'ouverture d'esprit. Elle est peut-être pas aussi facile que ça non plus. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est toute votre faute.
Ah non, mais elle sait très bien qu'elle a des torts elle aussi. Donc voilà, quoi.
Eh bien, laissez un petit peu décanter tout ça. Et puis peut-être que ça vaut le coup de mettre les choses à plat tous les deux et puis d'enfin réussir à communiquer. Parce qu'en effet, vous ne l'avez pas trompé, vous ne l'avez pas trahi, vous l'aimez. Je pense qu'elle vous aime aussi, sinon elle n'aurait pas réagi aussi violemment. C'est quand on aime quelqu'un qu'on le met dehors comme ça, avec autant de brutalité.
Elle m'a pas mis dehors, mais bon, c'est moi qui suis parti carrément parce que je veux pas la faire souffrir. Et puis,
alors là, c'est encore plus stupide si c'est vous qui êtes parti.
Ben non, c'est que je veux qu'elle puisse réfléchir. Et puis bon, comme je suis routier, je pars aussi. Alors donc, ça
facilite les choses.
Voilà.
Merci Laurent, en tout cas, de votre confiance.
Ben merci beaucoup. Puis je vous souhaite une bonne journée. Puis je vous souhaite de continuer à votre émission le plus longtemps possible.
Ben écoutez, c'est pas mal parti. Merci Laurent. Bonne route.
Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.
Notre sexy news du jour. Nous sommes en ligne avec Claire Delys qui est avec nous. Bonjour Claire.
Bonjour Brigitte.
Alors cet ouvrage pour vivre vieux, restons jeunes, c'est aux éditions Médicis. Vous l'avez coécrit avec Jean Castarède.
Et
c'est un ouvrage qui aborde trois points essentiels, la santé, la sexualité et la spiritualité. Alors on vous connaît peut-être pas Claire Delys, mais vous travaillez sur le tantra, hein, donc la sexualité et la spiritualité, vous mariez ça de main de maître, si je puis dire.
Du moins j'essaye, oui.
Et votre co-auteur, lui, connaît bien aussi la santé et la sexualité.
Oui, il connaît bien aussi l'analyse économique de nos sociétés, puisqu'on a essayé de donner aussi un petit regard sur l'économie et tout, mais avant tout, des conseils pratiques et une explication sur comment vivre le plus longtemps possible en bonne santé.
Exactement. C'est un livre très pratique, vous avez raison, et qui englobe à peu près tout ce qui peut concerner les personnes qui ont plus de 50 ans. Hein.
Oui, comme on le dit si bien, la retraite se prépare jeune, donc autant commencer tôt, même avant 50 ans.
Voilà. Alors, il y a une chose que vous dites et qui me semble tout à fait juste. Il y a des personnes qui plaisent à tout âge. Quel est leur secret, donc, justement? Enfin, vous le dites dans le livre, mais je vous le pose la question.
Alors, quel est leur secret? Alors, déjà, il y en a certains qui ont certainement une bonne hérédité, mais on a mis surtout l'accent sur la façon de vivre. Donc il y a des personnes qui vieillissent bien parce qu'ils ont bien vécu, sans regret, sans refoulement, en essayant de se poser les bonnes questions et en s'alimentant correctement, parce que les aliments sont très importants, le corps physique, en s'occupant bien de leur corps et en s'occupant aussi des autres, toujours tourné vers les autres.
Voilà, donc dès qu'on est bien dans sa vie, bien dans sa peau, bien dans ses amours aussi, et ben,
voilà,
on a plus de chances de bien vieillir.
Certainement.
Et la réussite n'est pas uniquement financière, vous le dites.
Non, c'est ce qu'on essaie d'expliquer. La réussite, bon, bien sûr que l'argent contribue à la facilité de la vie, mais vous pouvez avoir un bon caractère, être bienveillant, vivre bien votre sexualité sans avoir besoin de beaucoup d'argent pour autant.
Alors, il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes. Hein. J'ai l'impression quand même que les femmes sont moins gâtées dans le vieillissement que les hommes.
Oui, enfin, c'est en train de changer ces choses-là, avec la chirurgie esthétique, avec les femmes qui ont moins d'enfants, qui s'occupent beaucoup plus de leur corps. Donc, ces choses sont en train de changer. Hein, de plus en plus, les femmes vieillissent bien quand même. Elles ont encore plus peur que les hommes, statistiquement, de l'âge. Mais de plus en plus, cette différence s'estompe. C'est ce dont on parle aussi dans les livres.
Mm-hmm. Il y a bien sûr un petit peu de tantra dans votre ouvrage, hein, bien sûr. Et puis, il y a les 24 commandements du bonheur.
Oui.
Donc, moi, il y en a un que j'aime bien. J'ai encore un rêve, un projet que je voudrais réaliser. C'est important d'avoir toujours un projet.
C'est un secret aussi, d'avoir toujours des projets dans la tête. Et on n'est jamais arrivé au bout du chemin. Il y a toujours des possibilités. Il y a encore des choses à faire. Tant qu'il y a encore des choses à faire, il y a encore de la vie.
Et puis,
quand on renonce à ces projets qu'on commence à vieillir.
Et puis, il y a des exercices pratiques hein, qui sont tout à fait intéressants.
Voilà, on a essayé de mettre quelques exercices pratiques. Bien sûr, on n'a pas rempli le livre de ça, mais on en a mis quelques-uns.
Voilà. En tout cas, vraiment, Claire Delys, c'est un livre qu'on devrait tous offrir à nos parents hein, pour vivre vieux, restons jeunes. C'est aux éditions Médicis.
Merci.
Merci à vous, Claire Delys. Nous allons du côté d'RMC.fr. On va revenir sur un sujet qui est assez récurrent, la pornographie et les hommes. Et c'est Marine qui envoie ce mail. Je suis mariée, j'ai un enfant et puis depuis quelques temps, mon mari ne me fait plus beaucoup l'amour. Et en tout cas, c'est en pleine nuit, de façon expéditive et pas beaucoup de tendresse. Pas de recherche de plaisir, sauf le sien, évidemment. Et puis je me suis aperçue qu'il passe un temps fou sur les sites porno. Alors je suis un peu choquée, un peu blessée. J'ai l'impression de ne plus exister. Et qu'en fait, il me saute dessus la nuit parce qu'il pense aux filles qu'il a vues dans les films porno et non pas à sa femme. Alors j'ai essayé de lui en parler, mais il me répond toujours de façon agressive et me dit que c'est normal pour les hommes. Et que finalement, si j'essaye d'être plus entreprenante, il se refuse à moi. Alors je ne sais plus quoi faire. Donc je crois tout simplement que Marine, quand quelqu'un nous dit c'est tout à fait normal, tout le monde fait ça, c'est toujours une manière de fuir le dialogue du genre. Bah, c'est comme ça, il y a rien à dire, il y a rien à faire. Bon, bien sûr que non, c'est pas toujours comme ça. Et bien sûr que vous avez raison, c'est blessant. Et ça montre quoi? Ça montre que votre homme quelque part a des difficultés avec vous en tant que femme. Et il se réfugie, si je puis dire, dans une autre sexualité parce qu'il n'est plus capable de faire l'amour avec vous en tant que femme, en tant qu'être au sens noble du terme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Est-ce que c'est depuis que vous êtes maman, hein? Ça, c'est la première hypothèse. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui fait qu'il se sent moins bien dans sa vie actuellement? Ça traduit de toute façon un manque de confiance en lui, un manque de confiance dans sa virilité. Et je crois que ça nécessite vraiment peut-être de pouvoir aller consulter ensemble. Alors s'il refuse, ben moi je crois qu'il faut que vous fassiez aussi la grève du sexe la nuit, parce que vous ne pouvez pas continuer dans ces conditions à subir quelque chose qui ne vous convient pas.
RMC, Brigitte Lahaye, La Haye, l'amour et vous.
Et vous aussi, vous avez une petite question à me poser, vous avez un petit souci, vous avez envie de m'en parler, vous n'hésitez pas à vous m'appeler au 3216 et je serai ravie de vous parler, d'essayer de résoudre tout ça avec vous. Stéphane est avec nous sur RMC. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Brigitte.
Bonjour, vous avez 36 ans.
Oui.
Et des petits soucis d'érection par moment?
Oui, parce que ça fait un petit peu plus d'un an et demi maintenant que je suis avec ma compagne.
Oui.
Et puis tout fonctionnait très bien. On avait une vie sexuelle épanouie, tout ça. Et du jour au lendemain, j'ai pas compris. Je me suis retrouvé avec des troubles d'érection.
Oui.
Et puis, le problème qu'il y a, c'est que au début, donc j'étais voir un sexologue, tout ça. Il m'a prescrit des antidépresseurs. Et, bon, bien sûr, cette fameuse pilule magique.
Mm-hmm.
Mais ça commence à frustrer énormément ma compagne, et donc puis ça me frustre aussi, puisque j'arrive pas à comprendre pourquoi.
Donc oui. Un jour, comme ça, tout à fait de manière accidentelle, vous avez eu une panne d'érection, hein?
Voilà. Bon. Et bon, avant ça allait impeccable, tout ça.
Mais vous preniez des antidépresseurs à l'époque ou pas?
Non.
Non, vous n'étiez pas sous médicaments, rien. Bon,
non.
C'est la panne qui peut arriver à tout le monde, hein, qui est pas forcément dramatique. Sauf que vous, ça a visiblement pris beaucoup d'importance, puisque la fois d'après, vous avez eu à nouveau une panne, c'est ça?
Oui. Ben, enfin, si vous préférez, au début tout fonctionnait bien, puis à ce coup, il y a une semaine pendant une semaine, il n'y avait rien eu. Je pouvais pas avoir d'érection. Pourtant, j'ai toujours autant de désir, je l'aime toujours autant. Et puis depuis, ça va faire bientôt 4 mois que...
Oui, il ne faut pas prendre les choses à la légère, parce qu'on voit bien, et je l'entends dans votre voix, c'est quelque chose qui vous angoisse terriblement.
Oui, parce que c'est un truc pour moi qui est inadmissible, parce que j'ai eu pas mal de soucis sentimentaux. Et puis résultat, là, j'ai trouvé une femme vraiment formidable.
Est-ce que le sexo que vous avez consulté, ou le médecin, vous a parlé de médicaments un peu plus forts que les pilules, justement?
Bah, il m'a donné, donc, je vous dis, des antidépresseurs qui calmants. Donc ça, je les ai pris parce que j'étais assez dépressif. Et puis, du Cialis qui m'avait prescrit aussi.
D'accord.
Et aussi du Viagra.
Oui.
Et bon, bah, avec ces pilules-là, ça fonctionne. Mais il y a des fois, par moment, même avec...
Même avec les pilules, ça ne fonctionne pas.
Bah, c'est par moment, oui, il y a des fois, ça m'est déjà arrivé.
Stéphane, moi je vous entends vraiment très très angoissé. Je crois que ce qui serait bien, c'est d'aller faire un bilan, ce qu'on appelle un Doppler, auprès d'un urologue ou d'un andrologue, de manière à vérifier que tout fonctionne bien.
Justement, le sexologue, il m'a dit que tout fonctionnait bien parce qu'il m'a dit est-ce que vous avez vos érections du matin? Ben, je dis oui.
Donc vous savez de source sûre que tout fonctionne bien.
Bah, et puis bon, excusez-moi d'expression, mais bon, quand je me masturbe, tout ça.
Il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de souci, j'ai des érections.
Et vous n'avez pas de baisse d'érection au moment où vous vous masturbez?
Non.
Donc tout ça. Alors là, on est sur un plan très factuel. Hein. Tout ça montre bien qu'il n'y a aucun problème d'érection. Sauf qu'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage. Et là, ce petit grain de sable, il se trouve dans le cerveau.
Bah, justement, c'est ce que le sexologue m'a dit. Il m'a dit que j'avais un souci, que je pensais trop à mon sexe.
C'est pas tellement que vous pensez trop à votre sexe. C'est que vous êtes tellement angoissé à l'idée que la panne arrive... que forcément, vous n'êtes pas dans une attitude qui favorise l'érection.
Pourtant, je me répète, j'ai rien, j'ai pas de problème, j'ai...
Non mais Stéphane, ça c'est, vous savez, c'est la fausse méthode, la bonne méthode, ce serait le soir, avant de vous endormir, de vous visualiser avec pas de problème d'érection, avec des érections extraordinaires, et quand vous faites l'amour, vous n'y pensez plus et ça marchera tout seul. Mais bon, vous n'arrivez pas, quand vous faites l'amour, à oublier... votre sexe, puisque vous êtes en train de...
Le problème, c'est que au début, c'est peut-être un coup de fatigue, le stress, ou...
Mais
voilà,
c'est possible.
Et après, ça a engrené, c'est que...
C'est bien ce que je suis en train de vous dire. Alors, ce que vous pouvez faire, Stéphane, parce que ça, c'est quelque chose qui fonctionne et qui va vraiment vous permettre d'avoir des érections, même si vous vous angoissez, même si vous êtes en train de vous observer, c'est les injections intracaverneuses. Ça fait pas mal. Et ça va vous permettre de retrouver des érections jusqu'à ce que, à un moment donné, vous soyez rassuré.
Ah d'accord. Et ça s'appelle comment ça ?
Des injections intracaverneuses. Ce sont toutes petites piqûres qu'on se fait dans la verge, mais avec une aiguille qui ressemble même pas à une aiguille à coudre. Et ça fait vraiment pas mal. Et là, vous êtes sûr, quoi qu'il arrive, de maintenir une érection. Là, il faut que vous repreniez confiance en vous, parce que plus ça va, plus vous êtes en train de perdre confiance. Et donc forcément, vous savez, les pilules, elles sont efficaces, mais elles sont efficaces jusqu'à un certain niveau d'anxiété que vous avez visiblement dépassé.
D'accord, oui, parce que le problème qu'il y a aussi, c'est que je suis en train de ma compagne est en train de s'angoisser, et puis
Stéphane, elle
se détache, et puis elle a de moins en envie de le faire, quoi.
Stéphane, on se calme, tout va bien. Il y a cette solution-là qui n'est pas une solution définitive, mais le temps que vous puissiez vous calmer, retrouver confiance en vous, retrouver confiance dans votre couple, et relaxez-vous.
Et ça, pour ces fameuses injections, faut le faire par un sexologue ?
Vous pouvez demander à votre médecin traitant, hein, il n'y a pas de souci. Il pourra vous faire l'ordonnance. Il n'y a aucune raison qu'il vous la refuse. Maintenant, ce qui est peut-être mieux quand même, c'est que vous alliez la première fois quand même chez un sexologue, de manière à ce qu'on puisse vous montrer comment faire. Parce que anxieux comme vous êtes, je ne voudrais pas que vous fassiez les choses de travers. Mais je vous assure, je vous rassure, et c'est une femme d'expérience qui vous le dit, il n'y a aucun problème, vous pouvez vraiment retrouver vos érections. Mais pour ça, il faut vous calmer, vous détacher un peu de tout ça et...
Ouais, depuis y penser, quoi.
De vous rassurer. Je crois que vous avez besoin de vous rassurer. Je vous dis encore une fois, le soir, avant de vous endormir, reprenez confiance en vous. Et puis, surtout, cessez d'en parler à votre ami. C'est pas la peine.
Ah, d'accord. Donc, je vais voir ça avec le sexologue, parce que j'en ai déjà vu un depuis que ça m'a déjà arrivé. Et comme j'ai déménagé, je vais aller voir un autre médecin traitant, hein, un autre sexologue qui me prescrit ça.
Et là, vous êtes sûr, hein, même en étant anxieux, que l'érection va rester stable. C'est ça.
C'est des injections qu'il faut faire tous les jours avant l'acte ou...
Vous les faites pas tous les jours, vous les faites chaque fois que vous avez vraiment envie d'avoir une érection. Mais moi, ce que je vous conseillerais parallèlement, c'est aussi d'avoir la possibilité de faire un câlin sans forcément penser obligatoirement à avoir une érection. Parce que le meilleur moyen, à un moment donné, de perdre cette anxiété de performance, hein, parce qu'on est vraiment là dans une anxiété de performance, c'est de se dire, je m'occupe de ma copine, je fais un câlin, s'il y a une érection, peut-être que je la pénètre, s'il n'y en a pas, pas, eh ben, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de se caresser, c'est de se donner du plaisir. Ça, c'est la meilleure solution pour perdre cette anxiété de performance, parce que là, on est vraiment dans un cas bien précis d'anxiété de performance. Mais bon, vous y réfléchissez, vous laissez mûrir tout ce qu'on s'est dit, et puis surtout, je vous le rappelle, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Merci Stéphane. Rémi, vous êtes avec nous maintenant. Bonjour Rémi.
Oui, bonjour Brigitte, je vous appelle parce qu'en fait, ça fait bientôt un an que je suis avec ma nouvelle compagne. Mmh. Et en fait, au début de nos rapports, tout se passait bien, ça c'était long à finir. Mmh. Et maintenant, depuis maintenant quelques mois, je suis plus rapide. Donc ça me pose question et je me demande qu'est-ce qui m'arrive.
D'accord, donc vous n'arrivez plus à tenir aussi longtemps, vous éjaculez trop vite à votre goût et au goût de votre compagne, j'imagine.
Alors, elle, ça la dérange, enfin, elle, ça la gêne pas, mais moi, ça me gêne un peu.
Et est-ce que ça l'arrange, elle ?
Pas spécialement, non.
D'accord, bon. Parce que parfois, vous savez, le rôle de la partenaire, il est beaucoup plus important qu'on ne peut l'imaginer. Donc, c'est pour ça que je posais cette question-là. Mais en l'occurrence, elle aimerait mieux que vous teniez à nouveau un peu plus longtemps.
Oui.
Bon. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre style de vie ? Est-ce que vous habitez ensemble ? Est-ce que...
Non, pas encore.
D'accord, il n'y a rien qui a changé dans votre couple ?
Non, du tout.
Depuis. En revanche, est-ce que vous êtes plus amoureux ?
Oui, je suis beaucoup plus amoureux qu'avant.
D'accord. Bon, donc je pense que ça pourrait être la cause du fait que vous ne tenez plus très longtemps, parce que du coup, comme vous êtes beaucoup plus amoureux, vous êtes beaucoup plus excité.
C'est ce à quoi je pensais, mais bon, je voulais quand même avoir la certitude.
Donc on peut en effet penser que c'est dû à ça. Alors la solution c'est, puisque vous aviez la capacité de tenir relativement bien, me semble-t-il, hein, dans ce que vous dites, c'est de revenir un petit peu à des sensations qui ont existé et qui donc peuvent revenir. C'est toujours compliqué de guérir une éjaculation précoce quand on est comme ça depuis très longtemps et depuis le début. Quand c'est relativement survenu à cause d'un changement de d'état, hein, et c'est ce qui est votre cas, c'est moins compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer de repérer le moment où vous êtes vraiment très excité.
D'accord.
Et à partir du moment où vous sentez que vous êtes vraiment excité, vous dire que de toute façon, vous n'arriverez plus à contrôler votre excitation et donc faire une pause.
D'accord.
Alors pendant quelques temps, c'est un petit peu pénible parce que le rapport sexuel, il est plus comme on a envie. On est obligé un petit peu de contrôler.
Oui.
Mais cette phase de contrôle, elle est indispensable pour que vous retrouviez la maîtrise du rapport sexuel.
D'accord.
Donc ce que je vous conseille, c'est la prochaine fois que vous faites l'amour...
Oui.
Et au lieu de vous laisser emporter par vos émotions, votre excitation et puis finalement par ce qui est formidable dans le rapport sexuel, hein, ben vous allez être obligé d'être un petit peu le surveillant de votre propre plaisir.
Hein ? D'accord, très bien.
Donc, dès le début de la relation sexuelle, hein, vous vous observez. Dès que vous sentez que vous êtes terriblement excité, ben vous faites une pause, soit vous allez boire un verre, soit vous caressez votre compagne sans vous occuper de vous, de manière à laisser tomber un petit peu la pression.
D'accord. Et ça ne va pas perturber le rapport, je veux dire, ça ne risque pas de lui faire perdre son excitation à elle ?
Alors, il est possible qu'elle aussi, elle perde un petit peu de son excitation pendant quelques fois, mais il vaut mieux passer par ce stade-là pendant, je ne sais pas, peut-être qu'il vous faudra 2-3 rapports pour arriver à mieux contrôler.
D'accord.
Mais ça, c'est quelque chose, vous pouvez lui en parler, vous pouvez lui dire que vous avez demandé conseil et qu'il va peut-être falloir pendant 2-3 rapports être un peu... Mais moi, je ne vous conseille même pas de lui en parler, c'est votre propre histoire. Si elle vous dit vous lui dites carrément, vous lui dites non, je suis trop excitée, tu m'excites trop, il faut que je reprenne mes esprits. Et ça, une femme qui entend tu m'excites trop, de toute façon, ça l'excite. Hein.
D'accord.
Donc vous risquez pas qu'elle perde son excitation.
D'accord.
Et puis à ce moment-là, vous la caressez, vous faites quelque chose qui lui permet de patienter. Et quand vous avez... Or, quand vous êtes redescendu en pression, à ce moment-là, vous pouvez reprendre le cours normal de l'acte sexuel.
D'accord.
Et surtout, ayez confiance en vous. Hein. Ce que vous avez su faire, on sait toujours le refaire.
D'accord.
D'accord, très bien.
Ça, c'est une règle dans la sexualité qu'il est important d'apprendre par cœur.
D'accord, très bien. Bah, je vous remercie et puis continuez avec votre émission parce que ça aide énormément de gens.
Bah écoutez, voilà. Tant mieux et je suis ravie de vous aider. Merci Rémi en tout cas de m'avoir appelé.
Je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
Et bien vous aussi, vous avez besoin de mieux comprendre les ressorts de votre plaisir, de votre excitation, de votre sexualité. Vous n'hésitez pas à vous m'appeler au 3216 et j'essaierai de vous éclairer sur ce point. On se retrouve dans un instant.
Sur Internet, retrouvez tout RMC sur rmc.fr. rmc.fr.
Et nous allons du côté d'RMC.fr. On parlait d'addiction cette semaine. Il y a Jean qui me dit aller tous les ans au Cap d'Agde. Est-ce que c'est une addiction? Non, je ne crois pas que ce soit une addiction. Si ce n'est, ce serait une addiction si, par exemple, du 1er janvier au 31 décembre, vous ne pensiez qu'au Cap d'Agde et que ce ne soit que votre centre d'intérêt. Mais sinon, il y a des tas de gens qui vont tous les ans au même endroit en vacances et ils ne se posent pas la question de si c'est une addiction ou pas. Donc, pourquoi se la poser? Parce que c'est le Cap d'Agde. Et puis, Isabelle qui nous dit « Je viens de découvrir sur le net que mon mari consulte des sites gays. Il m'a dit qu'il avait des fantasmes avec des gays et qu'il a couché avec des gays. J'ai remarqué qu'il s'est inscrit aussi sur des sites de rencontres. Il m'a précisé qu'il était très bien avec moi physiquement et sexuellement et que cela était un besoin dont il pouvait se passer. Alors je viens de faire un test pour le sida dont j'attends les résultats et dorénavant je pense utiliser un préservatif avec lui. Vais-je devoir consulter un psy parce que je n'arrive vraiment pas à assumer la discussion n'étant pas son point fort. Que me conseillez-vous ? » Alors, je crois que là, on voit bien qu'il y a chez vous, et ça peut se comprendre, hein, déjà la peur que votre mari, finalement, vous ait menti et qu'il soit vraiment passé à l'acte et que donc, il n'ait peut-être pas mis de préservatif. Donc, c'est la question de la confiance, quelque part, hein, qui est soulevée dans ça. Et c'est une question essentielle. Je crois qu'on peut faire beaucoup de choses dans un couple, mais quand le respect et la confiance sont ébranlés, c'est vrai que ça devient très, très compliqué. Alors, ce qui est compliqué aussi pour vous, c'est toujours pareil quand on est avec un homme qui va voir une autre femme, on est sur le même point, on est dans une rivalité certes, mais qu'on contrôle bien. Là vous êtes avec une rivalité que vous ne pouvez plus contrôler puisqu'il s'agit d'hommes. Donc si vraiment ça vous déstabilise, oui, ça peut être intéressant d'aller en parler à quelqu'un parce que ça va vous permettre de comprendre ce que ça remue en vous, parce que c'est toujours évidemment par rapport à soi-même qu'il faut essayer de comprendre les choses.
RMC, Brigitte Lahaye. La haie, l'amour et vous.
Eh bien, je vous propose d'écouter cette question qui est arrivée sur le répondeur, le 3216, bien sûr, à laquelle je vais répondre tout de suite, sans joker.
Bonjour Brigitte, c'est Cécile de Toulouse. Alors en fait, je vous appelle car j'ai un petit problème. En fait, j'aime beaucoup faire l'amour avec deux hommes en même temps et j'ai vraiment peur pour ma réputation, de ce que peuvent penser mes amis ou à la rigueur les personnes qui me connaissent. Donc si vous pouviez me conseiller, ça serait super. Merci beaucoup, au revoir.
Alors la peur de ce que les autres vont penser, c'est pas forcément à négliger, hein, bien sûr, parce qu'on se construit aussi à travers le regard des autres. J'aurais aimé avoir votre âge, hein, parce que ça dépend aussi de son âge. Je crois qu'il faut pas tout mélanger. Visiblement, vous avez une pratique, vous aimez faire l'amour avec deux hommes, ce qui ne veut pas dire forcément que vous vivez avec deux hommes. Hein. Donc déjà, il faut peut-être garder un peu secret. Notre sexualité, on n'a pas à l'étaler au grand jour, ça reste quelque chose qui nous concerne, nous, et on n'a pas à expliquer aux autres qu'on fait l'amour avec deux hommes. En revanche, si vous vivez avec deux hommes, là, en effet, vous êtes confronté au regard des autres. Je crois que cette différence-là, il faut bien que vous l'intégriez. Comme ça, ça va vous permettre de mieux assumer votre pratique sexuelle qui ne regarde que vous et évidemment les deux hommes avec lesquels vous partagez vos nuits. Voilà. Chantal est avec nous. Bonjour Chantal.
Oui, bonjour Brigitte.
Bonjour, vous avez 30 ans et vous voulez revenir sur la jalousie.
Oui, en fait, je vis avec quelqu'un depuis 4 ans. On a eu beaucoup de bas à cause de sa jalousie. Mmh. C'est-à-dire que si quelqu'un me parle d'une façon un peu osée, mais en rigolant, de suite, ça prend les proportions. Il ne comprend pas du tout la plaisanterie. Pas plus tard que la semaine dernière, quelqu'un m'a dit, quand j'arrive au travail, « Oh ma chérie, qu'est-ce que t'es belle, tu devrais pas être ici, tu devrais faire du cinéma ». Et bien de là, ça fait 3 jours qu'on est en pleine dispute, quoi, à cause de ça.
Vous travaillez ensemble?
Non, on se croise. On est dans la même société, mais on se croise.
D'accord, donc il était là quand on, voilà. on vous a fait cette réflexion, qui est un compliment, hein, après tout.
C'est... Tout à fait. Donc ça m'a fait sourire. Je n'ai pas du tout argumenté. Et de là, le fait que j'ai souri, ça veut dire que j'ouvre les portes au fait qu'il puisse éventuellement me draguer. Pourtant, c'est une personne qui est quand même âgée. La personne qui m'a dit ça.
Oui,
et il m'en fait toute une histoire. Et ça, à répétition depuis 4 ans.
Et vous supportez ?
Eh ben non, on s'est séparés plein de fois. Jusqu'à 3 mois, on s'est séparés, donc 3 mois. Et donc, quand on s'est remis ensemble, il m'avait juré qu'il avait changé, quoi. Hein.
Mais il a peut-être envie de changer, sauf que s'il ne fait rien, il n'y a pas de raison qu'il change.
Ben, c'est-à-dire qu'il est quand même, il consulte quand même un psychologue qui lui a donné un traitement et tout, mais le résultat, c'est le même, quoi, hein, pour l'instant.
Et est-ce que ça lui arrive d'être violent autrement que verbalement ?
Dans le passé. Aujourd'hui, c'est terminé.
Faites toujours attention, parce que tant que vous n'êtes pas marié ou vous n'avez pas d'enfant, ça peut rester une jalousie comme ça qui est à peu près gérable. Mais il faut quand même toujours faire attention. Cette jalousie maladive trahit toujours une fragilité, hein, quand même, quelque part.
Oui, mais il me dit que c'est entièrement de la faute.
De votre faute ?
Ah oui, complètement.
Donc il est quand même dans un déni de sa jalousie.
Ah oui, complètement, oui. Il me dit que c'est de ma faute, et là aujourd'hui ça devenait invivable, j'ai dû partir, quoi.
Et qu'est-ce qui vous attire chez lui ? Pourquoi vous avez repris ?
Ben, c'est malheureux à dire, mais quand tout va bien, il est merveilleux avec moi, tout se passe bien, et j'ai d'énormes sentiments pour cette personne, donc c'est vrai que j'arrive pas à le quitter, quoi.
Vous avez l'espoir qu'il va changer ?
Toujours. Parce que là, depuis qu'on s'est remis ensemble, c'était vraiment parfait. Donc, j'ai rendu mon appartement, on est vraiment ensemble et tout. Et puis voilà, maintenant, ça recommence.
Mais oui, parce que dès qu'il a regagné un petit peu, il se laisse aller à nouveau à sa jalousie. Vous connaissez son rapport à sa mère ?
Oui, il est très bon.
Oui ?
Oui.
Et comment il s'est construit en tant qu'homme ? Est-ce qu'il a vu son père ? Est-ce que...
Je n'ai pas compris.
Est-ce qu'il a été élevé par son père ou pas ?
Par ses parents. Ses parents ne sont pas divorcés. Son père est très dur. Il a tendance à être comme son père, assez rigide. Mm-hmm. Mais sinon, bon...
Vous savez, donc, on n'a aucune idée d'où vient cette jalousie Parce que souvent, cette jalousie, elle vient d'une faille dans la construction de sa virilité. Hein.
Pourtant, ses parents, son père n'est pas jaloux, quoi.
Hein. Oui, non, mais j'entends bien, a priori. Alors, est-ce que son père ne l'a pas un peu trop écrasé et du coup, il n'a pas pu se construire réellement en tant qu'homme et cette faille, vous savez, la jalousie en elle-même, c'est la jalousie que vous racontez, elle n'est pas réelle, ça traduit autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Et ça traduit une fragilité qui est souvent de cet ordre-là. Et c'est ça, c'est ça qu'il faut qu'il découvre avec son psy. Moi, ce que je crois quand même, Chantal, pour l'instant, hein, continuer à l'obliger à travailler pour qu'il évolue, pour qu'il change. Et pour l'instant.
Oui, non, mais là, il en est au stade où il me dit que finalement, il a réalisé qu'il ne peut pas accepter mon comportement, qui est très sain, hein, selon moi et selon les personnes qui m'entourent. Il n'y a que lui vraiment qui est
victime. Oui, mais Chantal, ce que j'essaye de vous expliquer, quand on est dans un déni tel de son comportement, hein, donc on est bien d'accord, il ne reconnaît pas qu'il est jaloux, et quand vous vous disputez, de toute façon, c'est de votre faute. Donc là, on est vraiment face à quelqu'un qui, de toute façon, ne veut pas voir son comportement et ne peut pas, hein, parce que ça le déstabiliserait trop. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez que prendre de la distance et vous protéger.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? Donc faites attention à vous. Je ne vous dis pas de le quitter si vous l'aimez, si vous avez. Mais faites attention à vous et plus vous prendrez de la distance. Plus il va peut-être prendre conscience de son comportement.
Oui, mais je l'ai eu fait, puisque je l'ai quitté déjà 3 mois par rapport à ça. Et il n'a pas changé, finalement.
Non, il n'a pas changé. C'est bien pour ça que je vous dis, soyez prudente.
Donc finalement, parce qu'aujourd'hui, je me pose des questions pour mon avenir, parce que j'ai 30 ans, il est temps que je fasse ma vie. Et donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il ne changera jamais, quoi.
J'en ai bien peur. Pour changer, il faut pouvoir s'appuyer sur autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais.
C'est une protection, sa jalousie, une protection de son manque de confiance en lui, de sa difficulté à se positionner vis-à-vis d'une femme. Et toute peut-être que vous pouvez vous aller voir quelqu'un pour qu'on vous explique bien son comportement et que vous sachiez vraiment le mode de fonctionnement que vous devez adopter par rapport à lui.
Ah ben, le fonctionnement que je devrais adopter, ce serait baisser la tête, ne jamais sourire.
C'est pas du tout ce que je voulais dire. Ça, c'est le fonctionnement que lui vous conseille d'adopter. Mais c'est pas ça dont je vous parle. Je vous parle de quelqu'un, d'un psychologue, qui vous expliquerait comment vous devez vous conduire face à ce genre d'individu. Parce que là, vous m'écoutez pas beaucoup. Donc, face à quelqu'un que vous allez aller voir plusieurs fois, vous finirez peut-être par entendre. Parce que là, vous êtes dans un désir qu'il va changer, presque dans la certitude que ça va finir par aller mieux. Mais vous êtes dans une illusion. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites attention.
Oui, je m'en rends de plus en plus compte. Hein.
C'est bien.
C'est la raison de mon appel, parce que là, je suis... Je suis perdue, quoi. Quand je vois tout ce que j'ai fait ces temps-ci pour que ça aille bien,
Mais oui, mais parce que vous réagissez par rapport à votre fonctionnement. Vous êtes quelqu'un d'à peu près normal, mais là, vous avez en face de vous quelqu'un qui délire. La jalousie à ce stade-là, c'est du délire. Donc, on n'est plus dans quelque chose de raisonnable. Et quand on est face à quelqu'un qui délire, si on réagit, qu'on continue à croire qu'il suffit de réagir de manière raisonnable, on va dans le mur. Mais ça, Chantal... Et n'hésitez pas à aller voir quelqu'un, vous. Peut-être que ça vous aidera, ça vous fera avancer plus vite. Merci Chantal. On continue avec Julie qui est avec nous. Julie, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte.
Bonjour, vous avez également 30 ans et votre partenaire donc, vous propose des jeux de soumission.
Oui, exact. Alors, il faut savoir qu'avec ce partenaire, je n'ai jamais eu de relation. Je n'ai jamais eu de relation. Et qu'en fait, nous en sommes encore à la phase de séduction. Mmh. Et il me propose donc des jeux de soumission.
Vous êtes rencontrés il y a combien de temps ?
Il y a environ 3 semaines.
3 semaines, d'accord.
Voilà. J'ai une sexualité assez libérée et j'ai pas de soucis par rapport à ça. Sauf que là, pour la première fois de ma vie, je prends du recul et je réfléchis à ce qu'on me propose. Mmh. Parce que ça évoque, ça évoque 3 choses en moi.
C'est-à-dire ?
Alors déjà, qu'est-ce que la soumission ? Parce qu'il me propose une soumission, mais est-ce qu'elle est uniquement physique ou est-ce qu'elle va être aussi psychologique ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il va me manipuler psychologiquement ? Après, suite à cette question-là, je me dis, mais est-ce que je vais être en mesure de supporter cette manipulation ? Est-ce que je vais réussir à ne pas avoir mes vieux démons qui vont revenir ? Et enfin, la troisième question, c'est où peut se situer l'amour dans cette relation ?
Alors, c'est quoi vos vieux démons ?
Mais je démontre, c'est-à-dire que j'ai eu un père très autoritaire et que, par exemple, quelquefois, dans mes axes, voilà.
J'ai tout compris. Alors, Julie, vous semblez tentée par cette proposition que vous fait cet homme. Hein, on comprend dans votre réaction. Alors, la première question que vous vous posez, la soumission, on rentre quand même dans des pratiques sadomasochistes. Hein, on ne va pas se mentir sur les termes. Alors après, ça peut être en effet une soumission plutôt psychique ou une soumission plutôt physique. Et c'est peut-être à vous de poser la question. Votre limite, il faut surtout la respecter. Vous êtes tenté, pourquoi pas un petit peu essayer. Simplement, il faut savoir dire stop au moment où vous avez l'impression que ça ne vous convient plus. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude de pratiquer le sadomasochisme, en règle générale, il y a des règles et ça n'a rien à voir avec la manipulation.
Oui.
Un manipulateur, il ne va pas vous proposer des jeux de soumission. Il va vous soumettre malgré vous, au fur et à mesure, et vous n'allez pas vous en rendre compte. Et quand vous vous en rendez compte, vous êtes pratiquement sur le tapis. Hein ? Et pour répondre à votre dernière question, oui, il y a beaucoup d'amour dans les couples sadomasochistes. Il y a beaucoup d'amour. C'est un amour réel. Et c'est des pratiques sexuelles un peu très particulières.
D'accord, mais quand tout à l'heure on parlait de la soumission, même par exemple quand on est dialogué ou quoi que ce soit, donc il va évoquer une soumission physique, mais Mais quelquefois, dans ses réflexions, etc., j'ai l'impression que déjà, il me fesse psychologiquement, quoi. Enfin, voilà. Mais, alors, c'est à la fois très attrayant, parce qu'il a un grand charisme, mais c'est à la fois très, pour moi, humiliant, parce que je me demande où va être ma spontanéité. Et si jamais, à chaque fois, je dois réfléchir pour répondre, enfin...
Voilà, moi, j'ai quand même, Julie, j'ai quand même l'impression que ça clignote un peu dans votre tête et vous vous dites, cet homme peut être dangereux pour moi.
Oui.
Donc, si c'est ça, je crois qu'il faut quand même être très, très prudente.
Exact.
Moi, je vous ai répondu sur un plan purement factuel, mais ce que je ressens quand même, c'est que vous vous rendez compte que cet homme peut vous faire du mal. Et à mon avis, il faut peut-être faire très attention. Alors, je ne veux pas non plus vous faire passer à côté d'une belle histoire d'amour. Mais vous savez, nos antennes, elles sont souvent très justes. Donc, peut-être que cet homme n'est pas du tout ce que vous cherchez.
D'accord, très bien. Je vous remercie.
Je vous en prie, Julie. Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Merci à tous. J'espère que bien ça vous a permis d'être plus clair avec votre cœur. Et tout de suite, vous retrouvez Jean-Michel Larquet pour l'Arquet Foot. Je vous embrasse et passez un bon week-end.